Paso doble.
Paso doble.
Jeudi, polar.
Le problème avec un bras coupé, c'est que ça produit un sacré volume de sang. Surtout quand il est sectionné, brutalement, net. Ça commence ainsi. Le polar de Gérard Filoche et de Patrick Rénal, édité par le Cherche Midi, Sérium. Bonjour tout le monde. Bonjour Gérard Filoche.
Bonjour.
Et bonjour Patrick Rénal.
Bonjour.
Alors, ça commence très fort et on devine, au bout de quelques pages, qu'on va parler du travail clandestin, des conditions de travail. En France, un artisan a eu un bras coupé, accident de travail ou représailles de la mafia chinoise. Nous voilà sur la deuxième piste de ce polar, de ce thriller. Il s'agit aussi d'un quartier chinois à Paris. Alors, c'est le quartier historique chinois de Paris, hein. C'est pas le 13e, c'est pas Belleville, c'est Paris 3e arrondissement. Gérard Filoche.
Oui, 35 000 habitants dans le 3e arrondissement et 9 500 chinois. 850 boutiques chinoises, c'est ceux qui sont arrivés après la guerre de 14. Ils étaient venus, vous savez, en service commandé pour soutenir les Britanniques et les Français. Ça faisait partie d'un accord suite aux 55 jours de Pékin et la guerre des boxers.
Vous le savez, je dis oui, mais j'ai appris plein de choses en lisant ce polar.
Ça, je suis content. Et les Chinois, eh ben, ils faisaient les tranchées, les cantonnements, ils allaient chercher les corps. Donc ils les mettaient en les draps blancs, donc on les appelait les blanchisseurs célestes. Et c'est pour ça, vous avez ça dans Tintin. Et ils sont installés dans le 3e arrondissement, au sortir de la Première Guerre mondiale.
Et voilà. Ça reste le quartier chinois de Paris. Et ça, je ne le savais pas.
Le premier, parce qu'ils se sont installés.
Chinois, oui.
Ils se sont installés parce qu'il y avait les batteurs de métaux, qui étaient là à cause des anciens templiers qui allaient faire leur rapine dans les croisades et qui ramenaient de l'or, des métaux précieux. Donc c'est là que les métaux précieux se sont fait travailler, c'est dans le 3e arrondissement.
Et voilà, et on appelle ce quartier Little Wenzhou, c'est ça ?
Wenzhou.
De la province. Pas loin de Shanghai,
oui,
c'est ça ?
C'est ça, voilà.
Alors, Gérard Filoche, on devine que vous avez travaillé dans ce quartier, vous qui êtes un ancien inspecteur du travail, entre autres casquettes que vous avez portées avant de devenir auteur de polar avec Patrick Rénal. Est-ce que vous avez opéré dans ce secteur ?
Pendant 15 ans.
Pendant 15 ans.
Dans ma carrière, j'étais 30 ans inspecteur du travail, j'ai visité 9 à 10 000 entreprises. Dans le 3e arrondissement, il y a 3 500 entreprises. Bon, j'ai dû en visiter au moins la moitié.
Non mais dites-moi, parce qu'à un certain moment, on ne sait pas si c'est l'ambiance polar qui fait qu'on plonge dans des lieux, mais vraiment sordides, on croirait du Tintin. Ces ateliers à peine aérés, mal éclairés, comme durant le 19e siècle, ces habits sales, ces douches hors service, ces coins cuisine qui relèvent plutôt d'un film de série Z plutôt que d'un polar. C'est la vérité ou ça a été exagéré parce que le code
non,
du polar...
Non, c'est la vie réelle et je suis sûrement en dessous de certaines descriptions que les gens ne croiraient pas. Vous avez des gens qui mangent, ils mettent une grosse tôle sur une baignoire d'acide et ça leur sert de table pour manger le midi.
Et puis ensuite, il y a toute cette intrigue. Mais cette intrigue, elle a des répercussions sur la vie économique en France. C'est-à-dire que c'est quand même un sujet d'actualité. Patrick Rénal, on vous a pas entendu. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez coécrit ce sérium avec Gérard Filoche?
Écoutez, on a fait chacun ce qu'on faisait le mieux dans la vie. Lui, il a apporté toute son expérience d'inspecteur du travail et de protecteur, de centurion de la loi du travail et du code du travail et de la défense des ouvriers. Et moi, j'ai apporté mon savoir-faire en matière de roman. Gérard m'a dit un jour, j'ai écrit un polar. Je lui ai dit, écoute, envoie-le-moi. Au bout d'un moment, il me l'envoie, je le lis et je lui dis, écoute, c'est formidable, mais on est devant une espèce de bloc de faits serré, compact. Au sein de laquelle serpente quelque chose qui effectivement ne demande qu'à devenir un roman. Donc moi j'ai transformé ce bloc de faits en roman.
Inventer une intrigue.
C'est-à-dire qu'on a inventé une intrigue, on a aéré les choses, on a mis en scène les gens, on a mis des dialogues, on a caractérisé les personnages, on a augmenté l'hostilité patente et permanente et immédiate entre l'inspecteur de police et l'inspecteur du travail, qui est une idée de Gérard et qui est une idée formidable de mettre face à face un flic qui est obligé de rester à la porte des entreprises s'il n'a pas de mandat et quelqu'un dont le mandat c'est justement de rentrer rentrer et de voir ce qu'il y a, mais qui, lui, d'un autre côté, n'aime pas beaucoup les flics. Donc, voilà, on a...
Et ça, c'est arrivé dans la vie de tous les jours, quand vous étiez... Oh, c'est incroyable.
J'ai même un modèle en tête, je vous donnerai pas les vrais noms. Mais enfin, bon, bien sûr. Parce que quand on rentre dans une entreprise avec un policier, on est un inspecteur. Nous, on contrôle le patron. Et lui, il peut contrôler le salarié, et s'il le trouve pas bien, l'embarquer. Ça m'est arrivé d'être en conflit avec, comme ça, des policiers qui m'avaient dit, le matin, faut venir, on a un contrôle. Mais eux, c'était pour choper des salariés. Moi, c'était pour vérifier que l'employeur utilisait du travail dissimulé et se comportait mal.
Il vous montrait très bien qu'effectivement, il peut y avoir une dualité plutôt avec les policiers. Pourquoi ?
Parce qu'on est parfois sur les mêmes enquêtes. L'enquête des dernières que j'ai fait dans ma vie, c'était sur la mort d'un jeune homme, 22 ans, écrasé par l'ascenseur qu'il était en train de réparer, un vendredi soir hors délai, en heure supplémentaire, à la fatigue et sans être secondé par un jeune homme qui, lui, n'était pas formé. Donc, il meurt. Mais je fais l'enquête, je fais tout le dossier, mais parallèlement, le procureur demande à la police de la faire parce que c'est un accident mortel. Donc, je finis par croiser le policier sur ses dossiers, qui est le même que le mien.
Quand vous racontez ce genre d'histoire à Patrick Reynal, est-ce que l'idée d'un conflit entre les deux inspecteurs est tout de suite d'actualité ou c'est justement une manière de construire une fiction ?
Non, on la sentait déjà dans la... Gérard, dans le document qu'il m'a donné, avait déjà mis, on sentait déjà que l'inspecteur du travail, le policier considérait que l'inspecteur du travail piétinait un peu ses plates-bandes et vice-versa. Et surtout, parce que ça commence par une erreur de l'inspecteur du travail. C'est-à-dire, l'inspecteur du travail se rend sur un endroit où il pense tomber sur un accident de travail. En fait, il tombe sur un crime. Donc, c'est pas lui qui est à la bonne place, c'est le flic. Et comme le flic lui fait remarquer avec un petit air un peu ironique, Jean Carré, évidemment, immédiatement le prend dans le nez. Et alors là, on joue là-dessus pour donner un certain nombre pour donner un peu d'animation et d'animosité. C'est-à-dire qu'il faut quand même que, dans un roman, polar ou pas, il faut quand même qu'il y ait des gens qui s'aiment et des gens qui s'aiment pas. Il faut qu'il y ait une transformation à la fin. Il faut que l'histoire qu'on a écrite.
Est-ce qu'il faut qu'il y ait une morale? Parce que là, on comprend que il faut faire respecter le droit du travail, que ça peut être, en plus d'un devoir, une vraie passion, une vocation.
Oui. Mais je trouve qu'il n'y a pas de morale hein, là-dedans. On défend une idée, on défend une certaine idée de ce que doit être un État capitaliste, mais juste, c'est-à-dire avec, sans donner libre toute la liberté voulue au patron, qui évidemment en profiterait complètement, mais on espère bien que ce sera une trilogie, donc il y aura peut-être une morale à la fin. Mais on s'est servi un petit peu des entreprises chinoises, du marais et tout, pour débusquer autre chose. Ce qu'on débusque, c'est effectivement un trafic, mais qui ne met pas en cause les 35 ou 53 entreprises chinoises visitées.
Alors, avant de parler de ce trafic et de l'autre grand thème développé dans ce polar, je rappelle le titre, Cerium, chez Au Cherche Midi, Gérard Filoche et Patrick Reynal, puisqu'on parle effectivement du droit de travail, de la réalité économique avec quand même un point de vue, je dirais pas militant, mais un parti pris. Il y a toutes les subtilités dans ce roman, à savoir que on peut pas appliquer ce droit de travail tout le temps et d'une manière rigoureuse. Hein. Je veux dire que ce soit un flic ou un inspecteur du travail, quand il se rend compte que les fiches de paye ne sont pas remplies comme il se doit, bah, des fois, il n'a pas tous les moyens pour rectifier le tir. Donc on laisse passer aussi des choses.
Non, mais l'inspecteur du travail tend quand même à défendre l'ordre public social. Hein, le droit du travail, c'est un droit universel, c'est pas un droit boutique par boutique. Il y a une organisation internationale du travail. La Déclaration universelle des droits de l'homme fixe les termes du droit du travail. Et puis la Déclaration de Philadelphie aussi. Donc on a des références internationales pour ça. Et le fond du Code du travail, c'est que l'entreprise doit être asservie aux humains et non pas les humains à l'entreprise. Vous voyez, c'est la différence entre la loi El Khomri ou pas. Donc voilà, c'est point. Donc l'inspecteur, il intervient, puis après il essaie avec ses moyens, c'est pas lui qui décide, c'est le juge. Hein. L'inspecteur ne fait que l'agent de contrôle, il constate les faits, et ensuite il fait un procès verbal qui est transmis au juge, et le juge donne une suite ou pas.
Et avec aussi tous ces clandestins qui travaillent au vu et au su de tout le monde.
Oui et non, c'est-à-dire qu'on sait pas, il faut les contrôler pour savoir s'ils sont clandestins ou pas. On peut se douter, c'est sûr, mais...
On a 450 000 travailleurs détachés, par exemple, en France. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont payés avec des cotisations sociales d'autres pays, donc moins chers. Ils sont sur notre territoire, ils gagnent moins que le SMIC. Ensuite, après, vous avez un travail clandestin dans le bâtiment, ah, par exemple, qui est tout à fait développé, donc on en parle aussi. Mais le livre va un peu au-delà du travail clandestin, et même la question des Chinois, faut pas, surtout pas croire que c'est la communauté chinoise qui est en cause. En vérité, à la fin, elle est défendue. Il vaut mieux le dire quand même à tous nos lecteurs d'emblée, qu'ils auront une bonne surprise au bout du suspense.
Pourquoi ? Parce que si c'était pas le cas, ça aurait été un roman politiquement incorrect ?
Non, mais ça serait contraire à la vérité, parce qu'en France, vous avez la mafia chinoise agit, hein, vous avez presque deux victimes par mois, pratiquement 24 par an. Vous avez vu que la communauté chinoise se fait des manifestations pour se défendre et se faire respecter. Donc en vérité, en même temps qu'on pose la question du trafic, qui est le fond du livre, qui est le vrai secret du livre, en même temps qu'on pose la question du trafic, on pose la question des droits d'une communauté comme celle-ci à être respectée au même titre que tous les autres habitants de notre pays.
Comment avez-vous imaginé les personnages ? Est-ce que tous les personnages qu'on rencontre, il n'y a pas un inspecteur de travail, hein ? On apprend qu'il y a plusieurs personnes, corps de métier, qui entrent en action justement. Alors,
c'est
pour contrôler le travail.
C'est le club des contrôleurs.
Voilà.
Il y a plusieurs formes de contrôle qui concourent au même but, c'est-à-dire
la santé.
La santé, c'est-à-dire le médecin du travail. Vous avez le douanier, vous avez le contrôleur du FIS, c'est-à-dire des impôts, et vous avez le contrôleur de l'URSSAF, c'est-à-dire des cotisations sociales. Et ces contrôleurs ont l'habitude de prendre un pot dans un bar à vin commun une fois par semaine et se racontent des histoires qui, du coup, sont très révélatrices de l'état de notre société.
Voilà. Et ça, je vous vois sourire, Gérard Filoche, parce que c'était ça le but premier de ce roman, c'est-à-dire faire connaître ces gens-là qui travaillent très souvent dans l'ombre, qui travaillent très souvent dans des conditions pas toujours évidentes.
Écoutez, les corps de contrôle, c'est indispensable. Parfois, vous avez... Et il y a parfois un mépris des gens ou une hostilité facile, un peu démagogique, sur les corps de contrôle. Ils viennent nous embêter, ils nous contrôlent. Mais s'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de loi.
Non. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'il y a eu au moins deux films au cinéma qu'on a traité ici.
J'ai pas vu ça. Corporate, voilà. Le dernier.
Voilà, Corporate.
Qui est très intéressant,
qui parle de ça.
Corporate, ils m'ont fait l'honneur de me mettre dans le générique à la fin, parce que il m'avait consulté avec d'autres de mes collègues, et il est très efficace sur l'inspection du travail, ce film.
Ouais, mais sauf que le rapport de force cynique tend à donner quand même le dernier mot aux puissances d'argent ou à la raison économique qui prime avant tout.
C'est la réalité. Nous, on raconte une aventure qui se termine, qui se passe plutôt bien pour tous les personnages. Disons qu'on met, on se sert du véhicule qui est le roman, et en particulier en l'espèce le roman polar, pour faire passer une histoire avec une morale, et surtout des renseignements. Vous savez que la définition du bon roman noir ou du grand polar à la française, c'est une étude de milieu et une intrigue à l'intérieur. Et plus l'étude de milieu est réussie, c'est-à-dire plus le spectateur ou le lecteur, pardon, plonge dans un milieu qu'il connaît pas et en tire, ce que vous avez dit tout à l'heure, en tire tout un tas de renseignements, aussi bien sur la communauté chinoise que sur le fonctionnement de cette loi du travail et de sa protection, meilleur le roman est. Il faut juste que là, il y ait une juste balance entre l'intrigue et l'étude de milieu.
Et on est plongé aussi dans le troisième arrondissement. C'est-à-dire qu'il faut visiter chaque rue,
chaque bar,
tout est travaillé, même dans son histoire même.
Et donc ça se passe, on peut le dire, au cœur de Paris, ça se passe aujourd'hui.
Ah oui. Et les deux romans qui suivent, le deuxième s'appellera Samarium, ce sera dans le premier arrondissement, ça sera autour de la Samaritaine, quand elle existait encore, et le troisième, Lantane, ça sera rue de la Paix, pour vous compléter un par arrondissement, un peu comme Léo Mallet, fille dans le temps.
Avec les mêmes personnages, les mêmes protagonistes, c'est-à-dire l'inspecteur de travail, les syndicats, on n'en a pas parlé, mais ils sont très présents, les travailleurs.
Le patron de Jean Carré.
Oui, le patron.
L'abominable Pochon.
S'il fallait justement, on peut terminer là-dessus, comment décrire Jean Carré ?
Rond. Puisque c'est sa première phrase, il se présente et il dit « je sais, je suis un peu rond pour un carré ». Parce que c'est un personnage quand même que j'ai découvert, hein. C'est le personnage apporté par Gérard. J'ai eu l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de inflexible, jovial, bon vivant, ayant par rapport à moi étonnamment de choses en commun, c'est-à-dire aimant le cinéma et le roman policier. Donc c'est un personnage qui m'a été sympathique d'emblée. J'ai jamais cherché à le modifier ou à le tirer vers moi.
Il aime James Ellroy et Charlie Mingus.
Voilà.
Et il habite rue de la Corderie, au 12 rue de la Corderie. Et je suis sûr que vous savez pas ce qu'il y a au 12 de la rue Corderie.
Non, mais vous allez
c'était le siège de la Première Internationale pendant la Commune de Paris.
Jaurès.
Ouais, Jaurès. Et donc, ces dialogues, parce que si tout le roman, si tout Sérium est vraiment dans le Paris d'aujourd'hui, on sent ça dans l'activité économique, dans votre façon de décrire ce quartier, ces gens, ces intrigues, et surtout ces bas-fonds sordides, pour les dialogues, vous êtes resté très neutre, comme s'il fallait faire parler ce flic, comme s'il devait transcender toutes les époques.
J'ai pas voulu caractériser les dialogues, j'ai pas voulu leur donner une époque. J'ai fait parler comme les gens parlent normalement, j'ai pas cherché à employer de l'argot, j'ai pas cherché à employer un argot local, ou surtout ce que je déteste, je fais jamais ça, reproduire l'accent des Chinois par exemple, non, c'est des dialogues normaux, que j'ai essayé de rendre amusant en revanche, oui.
Gérard Filoche, et puisque ce roman sort après les élections, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plein de choses à faire, beaucoup de choses à faire dans le monde du travail? Vous êtes plutôt comme quelques personnages de ce roman pour qu'on arrête justement l'hypocrisie et que le travail ne soit pas si réglementé que ça, qu'il puisse y avoir plus de contrôle, et pour qu'il y ait plus de contrôle, plus de flexibilité.
Non, j'ai pas exactement dit ça. Je suis.
Non, je suis
quelqu'un qui pense que la loi républicaine, doit l'emporter sur les contrats privés, que l'ordre public social est un ordre commun à tous les salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise, et que les entreprises doivent être soumises aux besoins des humains et non pas l'inverse.
Et moi, je suis contre la tendance qui vient de l'Amérique, de plus en plus, qui est le mantra des capitalistes américains, des républicains et des libertariens encore plus dangereux, contre cette manie qu'on a de dire il faut rien interdire, laissons faire, et contre l'ubérisation, contre les gens qui maintenant se défendent à pied à pied la conduite automobile telle qu'elle est pratiquée par nos contemporains, en disant non, c'est trop, là il faut pas arrêter d'enlever le permis aux gens. Non, c'est où on va si on continue. On se comprend pour de la liberté, c'est une espèce de retour vers le chaos. Si on ne règle rien, si la tendance consistant à dire il faut abolir les règles continue, on va revenir à l'homme de Cro-Magnon. Ça va se régler à coup de massue sur la tête.
Voilà. Et par contre, l'intrigue, elle va chercher à ce qu'il y a de plus perfectionné dans le monde. C'est en commençant par le titre du roman, Sérium, qu'on découvre le fond d'un des trafics les plus rares, puisque au 19e siècle, c'était le charbon, le pétrole, et maintenant, c'est les terres rares.
Les terrains, justement.
Vous en avez tous sur votre portable ou dans votre ordinateur. Et c'est l'enjeu du roman et de la bataille qui s'y déroule.
Voilà, plus militant que jamais aujourd'hui, Gérard Filoche. Pardon de vous poser cette question, c'est la fin de l'émission. Est-ce que vous êtes toujours autant militant?
Ouais, bien sûr. Moi, ma première carte au syndicat, c'était en 1963. J'ai 71 ans. Et ça fait tout ça, je milite. J'ai jamais cessé. Je ne conçois pas la vie autrement que d'être militant. Rien de grand s'est fait dans le monde sans militantisme.
Avec des affinités, Patrick Rénal?
Disons qu'on a mal commencé il y a très longtemps, quand on se connaissait pas, parce qu'on a 71 ans tous les deux. On était tous les deux présents et actifs à une époque passée à l'histoire sous le nom de mai 68. Que c'était, ce qui est intéressant, c'est ce qui est arrivé à suivre après.
Il y en a un qui mais était maoïste et l'autre pas.
Voilà, il y en avait un qui était trotskiste, c'est Gérard, et moi j'étais maoïste. Donc à l'époque, on se serait violemment engueulé. Et puis non, voilà.
Et ça a été un plaisir de vous avoir ce matin. Merci d'être passé. Gérard Filoche, Patrick Rénal pour Sérium, c'est édité au Cherche Midi.